Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Ma femme d'aujourd'hui nous emmène à la découverte des réalisations et des compétences et potentiels de la femme marocaine, mais aussi à travers ces discussions, les failles qui parfois n'empêchent d'avancer. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Radia Chmenti Houari, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui.
Merci à vous pour l'invitation et vraiment ravie.
Alors justement, Lalla Radia, quand on essaye de chercher qui vous êtes, notamment bien sûr à travers les moteurs de recherche, à chaque fois on retrouve grande patronne de différentes entreprises nord-africaines. Est-ce que c'est une présentation qui vous convient?
Ben, je peux dire que c'est un couronnement d'un long chemin de carrière qui a abouti à la présidente directrice générale d'un grand groupe pharmaceutique, le deuxième plus grand groupe pharmaceutique au niveau de l'Afrique du Nord. Et pas que, bon, je suis aussi maman de deux enfants, grands-enfants, Amine qui a 27 ans, Khadija qui a 25 ans, et je suis mariée, donc...
Mais j'aime bien et pas que, parce que justement, souvent on nous valorise uniquement parce que nous sommes professionnellement, hommes et femmes d'ailleurs, pas que les femmes. Mais c'est la casquette, on va dire, qui semble être la plus importante pour avoir une position dans la société. Vous en pensez quoi, Lalla Radia?
Alors, pour moi c'est un travail d'équipe, comme dans l'entreprise.
Absolument.
Quand une femme ou un homme réussit, elle ne réussit pas toute seule ou tout seul. Il y a des gens derrière qui l'ont soutenue, qui l'ont accompagnée au long de ce chemin, que ce soit les parents, que ce soit l'époux, que ce soit même les enfants.
Absolument, absolument, avec ne serait-ce que des bisous et des câlins.
Et puis la carrière a une fin de toute façon.
Absolument, et la famille non.
Ah ben oui.
Alors justement, est-ce qu'à un moment ou un autre, Lalla Radia, on vous a fait sentir, dans une sphère ou une autre, que vous étiez carriériste, avec cette connotation négative de ce que peut le mot porter comme charge?
Bah, écoutez, moi j'ai eu la chance d'être dans le monde de la santé et je suis quelqu'un de passionné par le patient. Ça remonte à très loin. Quand j'étais petite, j'avais des soucis de santé, tout le temps des oreillons qui sont extrêmement douloureuses. Et quand j'arrivais chez le médecin, en sortant chez le médecin, j'ai une ordonnance et le soir je dormais bien. Et donc pour moi c'était un miracle. Pour moi le médecin, je le voyais comme...
Un sauveur
qui vient du ciel, c'est le sauveur. Donc, et de là, je voulais être médecin parce que je voulais servir les patients, je voulais aider et le bon Dieu a voulu que ça soit autrement et j'ai pu justement réaliser cette passion à travers mon métier. Et donc, le patient était au cœur de tout ce que je faisais et au cœur de toutes les décisions que je prends chaque jour parce que je sais au bout de la chaîne, il y a quelqu'un qui a besoin d'un médicament, qui doit être disponible, que ça soit disponible parce qu'il est sur le marché ou parce qu'on doit le mettre sur le marché parce qu'il n'est pas encore, il n'existe pas encore au Maroc. Donc, je pense que autour de moi, tout le monde voyait que je travaillais pour une mission, que ma vie avait un sens et le sens c'était autour du patient. Et la vérité, ce que j'ai découvert de par ma carrière, c'est que plus on travaille pour un sens qui porte ce que nous faisons, plus la réussite vient. Je vous assure que ça venait spontanément. J'ai travaillé pendant 10 ans en oncologie et le pronostic vital est très important. Et en fait, il fallait porter des solutions à des patients qui n'avaient pas l'accès à ce traitement-là. Et il fallait qu'on soit innovant. Il faut trouver un moyen. Et plus on est concentré sur trouver cette solution, plus au bout de la chaîne, on arrive à débloquer et après... Et après, la réussite vient, et après, le chiffre d'affaires arrive, et tout le reste avec. Et le couronnement, parce que quand on... Bon, ça, c'est entre parenthèses, oui. C'est pas la question, mais quand on arrive à trouver des solutions dans des pays comme les nôtres émergents, il y a d'autres pays qui en ont besoin, et on partage ça comme des best practices.
Absolument. Partage d'expérience.
En tant qu'expérience, et au-delà, on est couronné à l'international parce qu'on était les premiers à trouver le moyen de répondre à une solution.
Alors, Lala donc, Radia, oui, Lala. Vous parlez justement de votre métier avec énormément de conviction, d'amour, et on voit combien c'est une mission humaine que vous portez. Ça vous fait quoi lorsque vous entendez les groupes pharmaceutiques à l'international être plongé au cœur de scandales sanitaires?
Écoutez, moi, ce que je dis, et ça, c'est une question qui m'a été posée par un étudiant, je suis tutrice aussi d'études d'élèves ingénieurs, où je lui, bon, j'étais en session, et je lui ai dit, pourquoi tu ne considères pas l'industrie pharmaceutique? Il m'a dit, non, pas l'industrie pharmaceutique. Moi, je me dis, moi, en tant que personne, comment je peux contribuer? Au-delà de ce qui va se dire à l'international, le cœur de l'industrie pharmaceutique, c'est de sauver des vies. Les chercheurs, les médecins, tout ça, et le vaccin l'a bien démontré, qu'ils étaient là pour apporter des solutions. Maintenant, il y a des enjeux au-delà de ça, quand on va parler des actionnaires, et il faut un retour sur investissement pour les actionnaires, ça c'est une autre discussion. Mais moi, ce que je voyais dans mon rôle, comment je peux aider mon pays et les patients au sein de mon pays? Comment je peux utiliser tous les leviers pour trouver des solutions? Maintenant, ce que les gens pensent à l'international ou ce que tout ça, moi je le dépasse.
Mais est-ce que dans ce cas-là, pardon de vous interrompre, est-ce que dans ce cas-là, on ne médiatise que ce qui ne va pas? Est-ce que ce qui va bien dans les groupes pharmaceutiques, est-ce que ce qui va bien dépasse? Vous savez, comme ce que vous, les scientifiques, enfin les spécialistes de la santé, vous appelez le bénéfice-risque. Est-ce que le bénéfice des groupes pharmaceutiques en termes d'apport, dépasse le risque en termes de scandale sanitaire?
La vérité, moi, c'est une question qui m'a beaucoup interpellée. Oui. Quand j'ai, en fait, nous, quand je dis nous, à l'intérieur de l'industrie pharmaceutique, c'est une industrie qui est extrêmement réglementée, qui est extrêmement... Il y a beaucoup de procédures, des standards extrêmement élevés. Et en termes d'éthique et conformité, les standards sont encore plus élevés. Et donc, nous, de l'intérieur, on pense...
Vous ne comprenez pas, en fait, comment il peut y avoir autant de choses qui dérapent.
C'est-à-dire, pas dérapent. Je ne vois pas quelle est où est-ce que ça dérape, justement. Parce que, dans quel sens?
Ailleurs, lorsqu'on entend parler de scandales de médicaments, de molécules mal utilisées, de traitements qui coûtent extrêmement cher et qui ne sont pas... Ça peut paraître scandaleux aussi pour des familles qui en ont besoin.
Oui, l'accès à la santé est extrêmement important et c'est vrai qu'il y a des médicaments qui coûtent extrêmement cher. Mais il y a toujours des programmes qui apportent des solutions aux nécessiteux. En tout cas, là où j'étais, au moment où on était en train de développer un nouveau produit, en parallèle, on était en train de travailler à l'accès au marché et comment faire en sorte à faire en sorte à bénéficier les nécessiteux de ces médicaments. D'ailleurs, quand un produit sort sur le marché, il sort en deux noms. Un qui sera destiné aux pays qui sont en voie de développement ou qui ont un PIB qui est inférieur à un certain niveau.
Donc des génériques.
Voilà, et un autre nom de marque qui sera commercialisé dans les pays riches. Donc c'est un point qui est posé et l'industrie pharmaceutique est très constante par rapport à ça.
Alors, Lala Radia, justement, vous êtes PDG d'un groupe pharmaceutique. Les études, vous n'avez pratiquement jamais arrêté, même en étant mariée, maman.
Oui, ben écoutez, moi oui, effectivement, j'ai jamais arrêté. J'ai même arrêté ma carrière pendant 2 ans pour aller étudier. Et donc voilà, j'ai travaillé pendant 7 ans et j'ai décidé d'arrêter parce que j'ai fait un bilan de ma carrière. Et moi, j'étais dans le commercial, donc j'étais tout le temps sur le terrain et je me suis dit, un manager qui se respecte, il doit quand même comprendre ce que c'est que la finance, ce que c'est que les ressources humaines, ce que c'est que l'économie d'entreprise, etc., etc. Et donc, c'est à partir de là, j'ai décidé de démissionner. C'était très osé. Et de revenir et de faire un master pendant 2 ans. Et c'est à partir de là que j'ai repris le travail. Et en fait, tout de suite après, j'ai enchaîné sur un MBA des PAN. Au bout de 2 ans, je l'ai fini. Et après, j'ai fait Columbia à New York. Et entre-temps, il y avait des formations. Je ne m'arrêtais pas. Je lis beaucoup. Et je lis beaucoup les business books, c'est surtout pour les coachs. Et je lis et j'applique. C'est-à-dire, j'identifie tous les points à améliorer et parce que je me dis qu'on est dans un processus d'amélioration continue. Et c'est grâce.
Pardon, allez-y, je vous ai interrompu.
Et là, je m'engage et j'embarque dans un doctorat. Bon, j'espère que ça va
Ah,
aboutir.
super. Super, 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 ça c'est magnifique. Alors justement, est-ce que c'est le propre de la femme manager d'être dans ce processus d'amélioration? Est-ce que derrière, on n'essaie pas, nous les femmes, de cacher ce besoin de prouver qu'on est légitime? Et c'est pour ça qu'on va se former davantage et davantage et davantage, alors que dans un environnement professionnel, on va dire les vis-à-vis, les hommes, nos hommes vis-à-vis ne sont pas forcément dans ce processus autant que les femmes.
Moi, sincèrement, je le faisais pour mon développement personnel.
Oui.
Je me disais que chaque jour, je dois être meilleure que ce que j'étais hier et je trouvais qu'il y a tellement de choses à apprendre. Et puis même dans le cadre de mon métier, parce que grandir, parce que moi, j'ai commencé du plus bas de l'échelle et j'ai grandi petit à petit et j'ai... Et jusqu'à atteindre, on va dire, le sommet de l'organisation. Mais pour ça, toujours, on a besoin d'avoir des nouveaux skills. C'est-à-dire, moi, j'aime beaucoup un livre de Marshall Goldsmith qui te dit What got you here won't get you there. Ce qui vous a ramené ici ne va pas vous ramener là où vous voulez aller. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'avais le besoin, toujours, j'avais besoin de nouveaux bagages avec moi pour pouvoir aller de l'avant et réussir les nouvelles missions et les nouveaux rôles qui m'ont été accordés.
Mais vous, justement,
Voilà.
qui êtes dans ces hautes sphères, est-ce que les hommes sont dans le même état d'esprit? Est-ce que les hommes aussi pensent à se former, à acquérir ces skills?
Moi, je pense en tant que femme, c'est vrai qu'on doit fournir un effort colossal pour y arriver. On doit travailler peut-être 10 fois plus qu'un homme pour arriver à décrocher un poste ou une promotion parce que il faut qu'il y ait de la performance, il faut qu'il y ait des résultats. Ça ne veut pas dire que pour l'homme, il n'y a pas, mais il y a un côté, il y a le côté, on va dire, gestion de la politique, le réseau, que les femmes ne sont pas très fortes à ce niveau-là. La femme, quand elle finit sa journée de travail, elle a toute une liste de choses qu'elle doit faire, la famille, les enfants, peut-être des invités, etc., etc. Un homme, il va aller prendre un café ou un pot avec ses amis et c'est comme ça qu'il va être informé d'abord des postes qui existent, qu'il va être informé des rouages, qu'il va nouer des relations très étroites
Absolument.
avec les décideurs et les influenceurs. Donc, du coup, ce côté-là, on n'est pas bon.
Mais est-ce qu'on a le choix? On n'est pas bon, mais est-ce qu'on a est-ce qu'on
La vérité, écoutez, moi, on a créé un réseau qui s'appelle We4She.
Oui.
Et dans ce cadre-là, on a organisé un focus group avec les top décideurs du Maroc, une douzaine, 12 grands monsieur et dames. Et dans ce focus group, on a essayé de comprendre pourquoi il y a un plafond de verre, pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes dans les conseils d'administration, pourquoi il n'y a pas de beaucoup de femmes dans des postes de prise de décision. Et le feedback était très, très intéressant. Un feedback qui m'a beaucoup interpellée, on nous a dit que vous, les femmes, quand vous montez toutes seules. Vous allez travailler très dur, vous allez, justement, vous allez vous former, vous allez délivrer, vous allez vraiment vous surpasser. Si on va vous demander de faire 10, vous allez faire 40 et vous allez monter et vous allez arriver au top. Mais quand il y a un pépin, quand vous tombez, vous allez tomber toute seule. Nous, les hommes, on monte comme une muse. On monte ensemble et quand il y a un pépin, on est là pour rattraper. Et je pense que c'est une chose très importante que les femmes soient solidaires et que la femme elle-même, quand elle est en train de monter dans les échelons, elle monte, mais aussi elle essaie de s'entourer de sponsors qui vont être là pour la défendre, pour lui offrir des opportunités et pour justement la baquer en cas de pépin. Parce que voilà, la carrière, c'est des hauts et des bas.
Et des bas, absolument. Ouais. Mais alors justement, en général, une femme qui réussit, ça veut dire qu'il y a eu des hommes derrière, des mentors derrière, des mentors hommes?
Ben écoutez, moi, la vérité, j'ai eu plusieurs hommes dans ma vie qui m'ont permis d'arriver là où je suis. Le premier homme, c'était mon père. Mon père qui a mis les fondations, toutes les valeurs, l'éducation. Il était très content de m'avoir, c'est ce qu'on me raconte. Oui. Parce qu'en général, un homme, il a envie d'avoir un garçon. Moi, j'étais la première, j'étais une fille, il en était ravi. Et à chaque fois que je le regardais, je vois dans ses yeux la fierté et beaucoup d'estime. Et il le faisait savoir à la maison. Donc, j'étais la privilégiée. Il y a eu trois frères. Et donc, du coup, pour moi, c'est quelque chose qui m'a donné des ailes, on va dire. Qui m'a encouragée. Tout de suite, je ne me sentais pas, je suis une fille. Donc, non, je suis la fille. Et donc, voilà, le deuxième homme, c'était mon mari. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un mari qui a une grande ouverture d'esprit. Parce que c'est pas commun d'accepter que je passais plus de temps dans les avions à tourner dans les continents que chez moi à un certain moment. Et donc, lui, il était là, même pour mes formations. Des formations, c'est des week-ends. Et donc, week-end, c'est-à-dire la vie sociale, entre parenthèses, pendant un an ou deux, parce qu'on ne peut pas recevoir et on ne peut pas aller chez les gens. Et donc, et il le faisait spontanément et il m'a beaucoup encouragée. Des fois, même moi, j'hésitais, je dis, écoute, j'ai eu la proposition telle, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, mais bien sûr, go, c'est bien, il faut y aller. Et donc là, c'est très important. Et là, bon, les autres hommes, c'est tous ceux qui m'ont permis de décrocher mon premier poste de management et qui ont cru en moi et qui ont continué et qui étaient vraiment exceptionnels. J'ai eu la chance d'avoir des patrons vraiment de très haut niveau qui étaient là pour moi et pour me soutenir. Il faut dire aussi que je délivrais. Donc.
Oui, absolument. Mais vous maintenant, vous qui êtes PDG aujourd'hui, est-ce qu'il y a ce retour d'ascenseur pour la femme? Est-ce que vous sentez que c'est dans votre politique à vous? C'est-à-dire, vous avez été soutenue, amenée là où vous êtes parce que vous délivrez, bien sûr, mais il y a aussi eu la confiance de plusieurs hommes. Et notamment des patrons. Aujourd'hui, en tant que CEO, est-ce que vous vous dites ma mission aussi, de par ma position, c'est d'amener d'autres femmes à des postes de responsabilité et de management?
Oui. Et bien évidemment. Alors là, moi, quand je suis passée par là, d'abord, j'accordais le flexi-time pour les collaboratrices, c'est-à-dire spontanément. Je sais qu'elles travaillent très dur, je sais qu'elles sont engagées. Ça m'est arrivé de dire à une collaboratrice, écoute, Sors à 4 heures, va chercher tes enfants, fais leur goûter, leurs devoirs et reprends. Tu te connectes à 8 heures du soir quand ils sont au lit et tu continues. Tu n'as pas besoin de rester au bureau et de laisser les enfants. Une autre qui avait un souci de santé, qui devrait rester à la maison pendant 2 semaines, j'ai dit, écoute, vas-y et travaille à partir de chez toi. Le plus important, c'est le résultat.
Ça,
c'est pas le... Et c'est clair, quand il y a des opportunités, femme ou homme, à compétences égales, bien sûr, tous les deux, ils vont se présenter et le meilleur va gagner. Et dans le cadre de We For She, c'est le cœur de ce que nous faisons. C'est de permettre à des femmes d'aller de l'avant et de décrocher des postes de management, les aider par le coaching, le sponsoring ou le développement personnel et de les encourager à continuer. C'est clair que c'est un devoir à nous toutes de supporter les femmes. Et puis l'infrastructure, on a besoin d'infrastructures pour les femmes parce que il faut avoir des crèches, il faut avoir des nounous qui sont formés, qui sont là. Vous savez, le grand stress d'une femme pour une nounou qui part le week-end, c'est le dimanche soir, est-ce qu'elle va revenir ou pas. Ça, c'est... Et donc là, il faut aussi qu'on aide la femme en tant que société avec les infrastructures qu'il faut pour qu'elle puisse avancer.
La Radia, c'est votre message à l'occasion de ce 8 mars ?
Ben oui, c'est mon message à tous les hommes et toutes les femmes d'aider et de soutenir les autres femmes pour aller là. Parce qu'on est plus de 50%, on présente plus que 50% pour, au niveau du pays. Donc c'est la moitié du pays. Un pays ne peut pas se développer avec un seul pied, il faut les deux pieds. Et il faut les aider à contribuer. C'est une ressource qui est très importante, qu'on doit la mettre en avant.
Lalla Radia Houari, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à vous. Merci à vous et merci pour l'invitation.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.